Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour à toutes et toutes. Au programme de notre nouvelle édition, la ville de Villeurbanne avec une nouvelle salle de spectacle pour remplacer le CCO. La Rayonne ouvrira bientôt ses portes. Bérangère Allégret, responsable de la programmation, est l'invité de Guillaume cette semaine. Gaëlle chroniquera l'exposition En forêt avec Vincent Munier au musée des Confluences. Et Thomas nous lira l'incontournable Werner Herzog, un extrait de texte sur le chemin des glaces. Et bien entendu, nos Gédéons pour prolonger le plaisir. Nous débutons avec un lieu de Villeurbanne qui promet de belles rencontres, la Rayonne, pour en parler sa programmatrice, Bérangère Allégret. Bonjour et merci tous les deux d'être venus nous rencontrer cette semaine.
Bonjour Bérangère, c'est l'ENNA, l'École Nationale d'Apprentissage. Il se trouve que je suis enseignant et que j'ai fait en fait ma formation, ma formation de stage dans ce lieu-là. Donc j'ai bien parcouru ces couloirs, mais c'était tellement délabré et là maintenant c'est un lieu qui est totalement... Qu'est-ce que c'est que la Rayonne? C'est quoi son statut? Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? Est-ce que c'est lié au CCO qu'il y avait avant? Voilà, c'est très complexe en fait.
Le projet de l'autre soi, où en fait où toi t'es allé étudier, donc le projet de l'autre soi c'est vraiment toute la rue Alfred de Musset, qui a été rachetée par 5 acteurs, dont le CCO, Aralis, Alinéa, S Métropole Habitat et Ronson Habitat. Ensemble, ils ont acheté il y a 10 ans toute cette rue et ils ont bâti un bout de ville chacun. Le bâtiment que tu as connu, maintenant, il s'appelle le bâtiment de l'autre toit. Au rez-de-chaussée, il y a une maison des services publics. Il y a une partie qui appartient au CCO avec un Fab Lab, un espace de coworking, des espaces de création, un amphithéâtre de 50 places. Après, les deux autres étages, c'est une résidence étudiante. Et le dernier étage, c'est un foyer pour femmes victimes de traite et de violence. Ça, c'est le projet de l'autre toit. Et à côté, au bout de la rue, il y a un bâtiment rouge qui a ouvert en automne, enfin à l'automne dernier, qui s'appelle La Rayonne. Le propriétaire, c'est le CCO. Donc, le CCO, c'est une association d'intérêt général financée par les pouvoirs publics pour l'action territoriale et sociale. Ils ont construit ce bâtiment, ils ont acheté le terrain et maintenant, pour exploiter la salle de concert, ils ont monté une SASU, du coup une SAS avec un unique actionnaire qui est le CCO. Mais du coup, la salle de concert a une activité purement privée sans financement public sur de la diffusion. Il y a eu des financements de la ville, de l'État pour construire et bâtir ce bâtiment, mais il n'y a pas de financement pour la diffusion musicale. Le CCO, lui, par contre, a plein de financements pour faire plein d'actions culturelles.
Alors peut-être se focaliser sur la Rayonne et sa salle de spectacle. C'est quoi la jauge de cette salle?
On a deux jauges possibles, une jauge tout debout à 1000 et une jauge tout assis à 311.
Il y a eu déjà pas mal de concerts qui ont eu là-bas. Il me semble que traditionnellement, le CCO, j'exagère un petit peu, mais l'esthétique quand même c'était un peu métalleux. Il y avait beaucoup de métal. Moi j'ai noté quelques dates prochaines, du death metal polonais, du black metal américain, du thrash metal brésilien. Mais j'ai l'impression que vous commencez à vous ouvrir à d'autres esthétiques. Est-ce que tu peux nous parler de ça?
Alors aujourd'hui à La Rayonne, il y a vraiment de tout. En tout cas en termes de musique, on va du métal à la pop, à la chanson française, beaucoup de rap, on a de la K-pop, on va avoir des spectacles de danse, on a quand même vraiment beaucoup de choses. Après, c'est vrai qu'historiquement, on a eu beaucoup d'acteurs métal qui sont venus, dont sont de laquelle, qui eux, qui sont des organisatrices de métal à Lyon et qui continuent à organiser à La Rayonne.
À côté de cette salle, d'autres lieux en fait. Moi j'ai noté, enfin c'est assez dingue, l'amphithéâtre, la selle, la serre, la salle à idées, l'atelier, le Fab Lab, comme tu disais, voilà. Des lieux en fait où les gens se croisent. En fait, je pense que c'est la volonté un petit peu de voilà, que la population. Comment vous arrivez à attirer les gens en fait?
Il faut comprendre qu'il y a quand même deux structures avec deux missions différentes. Donc il va y avoir la salle de concert dont moi je m'occupe, fait de la mixité sociale, mais vraiment que en termes de programmation. Et à côté, il y a tous les autres espaces qui sont gérés par les CCO et qui invitent plein d'assos. Il y a Sadki qui donne des cours de hip-hop, Afro Mondo qui donne des cours de danse également. Il va y avoir des ateliers toute la semaine dans les Fab Labs, dans tous les espaces. Et on a aussi tout un espace tiers-lieu où là, les gens peuvent se croiser. Là, pour le moment, c'est les espaces qu'on a ouverts. Maintenant, l'enjeu pour dans les 10 prochaines années, c'est de réussir à pouvoir vraiment mélanger nos activités. C'est-à-dire, par exemple, le 30 mars, Sadki, qui donne des cours de danse, vont venir organiser dans la grande salle, on les accompagne pour ça, un showcase dédié aux danses urbaines. Et du coup, pendant toute une soirée, il va y avoir des battles de danse sur scène. Voilà, ça, c'est un peu aussi la volonté de se dire, bon, en fait, on a toute une pépinière associative autour de nous et comment on arrive à les inclure dans ce grand bâtiment, dans cette grande salle de 1000 places et comment on les aide à pouvoir programmer dedans.
Il y a un point important aussi, c'est comment on vient chez vous. Il y a longtemps, il y avait d'autres salles, alors pas du côté de Villeurbanne, mais à Vénissieux, dans les années 90, il y avait le truck. Comment on vient justement ?
Eh ben, il y a plein de transports doux. Il y a le tram, il y a l'arrêt de métro, on est à 5 minutes à pied de l'arrêt de métro Vent-en-Velin-la-Soie.
Ouais.
Il y a le tram T3 qui passe, il y a toute la ligne aussi de vélo. On a une grande piste cyclable qui y mène.
Oui, parce qu'on a oublié de dire, en plus, il y a un jardin assez extraordinaire, finalement.
Le parc a beaucoup été utilisé par le CCO pour justement commencer à ouvrir ce nouveau quartier. Là, maintenant, le parc, il dort. Et en fait, il est en phase de concertation. Le parc, il va être revendu à la ville de Villeurbanne. Ça va devenir un parc municipal, mais co-géré et co-construit par les habitants. Donc là, actuellement, le CCO mène une concertation avec les habitants. Le parc va dormir pendant quelques temps, voire une année entière. Et il va y avoir de la construction, replanter des arbres, réfléchir aussi à tout le développement durable et comment en fait on fait que la végétation va pouvoir survivre.
Un dernier mot pour la salle de concert. Moi, j'ai remarqué que chaque soir, il y avait à manger différemment. Plutôt intéressant parce que souvent les salles sont liées avec un partenaire privilégié.
Et ben en fait, on a quand même un partenaire.
Ah oui.
Mais ce qui est sympa, c'est que le food truck Enni, qui est un food truck spécialisé dans la nourriture indienne, il a tout un roulement de food truck.
D'accord.
Qu'il a en partenariat avec lui, qui fait du bio, local, et tout fait maison. Et du coup, qui nous les propose et on fait un roulement ensemble de food truck.
Tiens, moi, j'invite tous les auditeurs à aller à La Rayonne parce que c'est un lieu vraiment très beau. On se sent très, très bien. Puis, on mettra toutes les indications, le site internet qui donne effectivement la programmation, notamment des concerts. Merci beaucoup, Bérangère.
Merci à vous.
Bonjour Gaëlle, cette semaine tu nous proposes la visite de l'exposition En Forêt avec Vincent Munier au musée des Confluences.
Vous connaissez Vincent Munier, photographe naturaliste et animalier mais aussi cinéaste. Il est du tandem La Panthère des Neiges, livre éponyme pour lequel Sylvain Tesson a reçu le prix Renaudot 2019. À l'époque, Vincent Munier poursuivait depuis 6 ans La Panthère des Neiges sur les plateaux du Tibet. En 2021, Vincent Munier co-réalisait avec Marie Amiguet le film La Panthère des Neiges. Pour En Forêt avec Vincent Munier, le musée des Confluences propose une vingtaine de photographies, un film et des captations de pièges photographiques. Culte de la nature proche du panthéisme et ode au sauvage, l'exposition montre le triomphe de la nature sur l'œuvre des hommes. Vincent Munier est né en 1976 à Épinal. Enfant, il parcourait déjà la forêt vosgienne. Son père lui disait « La forêt est un monde habité très complexe ». Son père, Michel Munier, lui a tout appris. Père également écrivain, naturaliste. Son livre « L'oiseau forêt, 800 nuits sous un sapin » est sorti fin 2022 aux éditions Cobalan, la maison d'édition créée en 2010 par Vincent Munier, Cobalan faisant référence à l'ours brun de l'extrême-orient russe. Sous les auspices de son père, Vincent Munier prend, dans la forêt, à l'âge de 12 ans, sa première photo animalière, un chevreuil. Cet instant a été, je le cite, une bascule. C'est donc dans la forêt que le futur photographe animalier a appris à appréhender le monde sauvage. La scénographie de l'exposition s'ouvre sur de vastes images d'arbres aux cimes spectrales qui émergent du brouillard. Atmosphère immédiatement envoûtante, dans laquelle estampes japonaises, art minimaliste et paysages romantiques comme ceux peints par Caspar David Friedrich résonnent. Vincent Munier révèle la nature à travers les filtres naturels du brouillard, la brume et la bruine. Souvent saisis à l'aube ou au crépuscule, lorsque les bêtes sont les plus actives, les paysages de Vincent Munier font songer aux ambiances chères au romantisme. La nature grandiose, infinie, éthérée, s'offre dans ses dimensions mystiques et spirituelles. Cette célébration pousse à la contemplation, l'introspection, voire la révélation. Dans ces paysages, nous apercevons une mésange huppée, des hiboux grand-duc, un blaireau, des pinsons ou encore un grand tétras, aussi nommé coq de bruyère. Il faut se laisser imprégner lentement et longuement par le sublime de cette nature et la faune sauvage patiemment saisie. Patience, l'art de Vincent Munier s'émancipe inévitablement de la rapidité, de la précipitation et de la hâte. Discret, le photographe l'est nécessairement. Il marche sur la pointe des pieds, s'efface, devient presque végétal, en état de symbiose. Il s'isole pour mieux voir et mieux entendre. Et surtout, il attend. Transi par sa passion, tout autant que souvent par le froid. Quête opiniâtre et humble dans la forêt habitée. Seul l'affût distancié et persévérant permet la saisie dans un juste respect de l'intime du sauvage. La ténacité de cette chasse, sans effraction ni mort, favorise un état de grâce, celui de l'irruption de l'animal sauvage. Les photographies si fascinantes paraissent magiques. Surnaturelles pour autant ? Non. Elles captent des moments fondamentalement naturels. Le photographe confesse toutefois, le moment de l'irruption de l'animal paraît presque irréel. Plus qu'une reconnexion à la forêt et au sauvage, Vincent Munier nous offre une connexion, tel un voyage initiatique, car peu de personnes ont la possibilité de voir des espèces sauvages dans leur environnement. Vincent Munier semble nous dire « Le monde que vous regrettez existe encore bien. Regardez-le et écoutez-le. » L'exposition En forêt avec Vincent Munier propose un voyage visuel et sonore. Le photographe cinéaste a réalisé un film de 24 minutes sans commentaire. Ce film immersif permet aux spectateurs de vivre les bruits de la forêt en écoutant les sons et les cris des espèces sauvages. Casting impressionnant. Cerf, faucon, hibou grand-duc, canal colvert, chamois, ours brun, renard, grand cormoran, martin pêcheur, grenouille rousse, chouette sevéchette, la plus petite chouette d'Europe. Et la distribution continue. La dernière salle comprend 5 pièges photographiques qui se déclenchent automatiquement lorsqu'il détecte une présence. Photographié à son insu, la faune n'est pas dérangée. Adultes et enfants peuvent observer chacun à leur hauteur les images obtenues par ces caméras pièges. Enfin, l'exposition bénéficie d'un dispositif d'audiodescription pour les personnes malvoyantes grâce à la fondation Visio. En forêt avec Vincent Munier est une exposition recommandée. Elle est programmée jusqu'au 27 avril 2025. Plus d'informations sur museedesconfluences.fr.
Merci beaucoup Gaëlle.
Thomas, cette semaine, c'est Werner Herzog qui a les faveurs de ta lecture. Tu nous proposes un extrait de « Sur le chemin des glaces ». On en parle juste après.
Mercredi 11 décembre. Je ne vois devant moi que des étendues sans relief. Soudain, à l'approche d'une colline, j'ai pensé « Tiens, un cavalier ». Mais de près, c'était un arbre. Puis, j'ai vu un mouton. Pris de doute, je me suis demandé si ce ne pouvait pas être un buisson, mais c'était bien un mouton qui se mourait là. Il mourait, silencieux et pathétique. Je n'ai encore jamais vu un mouton mourir. J'ai marché à vive allure. À Troyes, il y avait de gros nuages bas qui filaient dans le sombre petit matin. Il a commencé à pleuvoir. Dans l'obscurité, j'ai marché jusqu'à la cathédrale et lorsque j'ai eu fait le tour de cette masse enténébrée, j'ai pris sur moi et je suis entré. À l'intérieur, il faisait encore très noir et je restais muet dans une forêt de géants, assombrie depuis des temps immémoriaux. Dehors, la tempête était telle qu'elle a déchiré ma cape imperméable. Je me traînais d'arrêt de bus en arrêt de bus, cherchant à trouver un toit dans ces refuges. J'ai ensuite abandonné cet insupportable national et j'ai longé la Seine sur une route parallèle. La région était désolée, on eût dit une banlieue qui n'en finissait pas, avec cependant quelques fermes ça et là. Les fils électriques hurlaient et se balançaient dans la tempête. Je marchais, légèrement courbé en avant et de biais, pour que mes jambes ne s'envolent pas. Les nuages étaient à peine à 100 mètres de haut, une chasse exceptionnelle. Près d'une usine, un vigile m'a apostrophé, croyant que je voulais pénétrer dans son fief alors que je voulais seulement m'éloigner de camions qui traînaient de grands jets d'eau. Impossible de prendre à travers champs, tout est inondé et bourbeux. Là où il y a des labours, le terrain est trop lourd. Endurci par le mauvais temps, j'affrontais plus facilement les visages aujourd'hui. J'ai les doigts si glacés que je ne puis écrire qu'à grand-peine. Soudain, juste au-dessus de moi, mêlée, rafale de neige, éclairs et tonnerre, sans que j'aie le temps de trouver refuge. À demi adossé au mur d'une maison pour me protéger du vent, je tentais de laisser passer l'orage. À côté de moi, à droite, au coin de la maison, un chien loup fanatique a passé la tête à travers la grille du jardin tout croc dehors. En quelques minutes, une main de neige et d'eau a recouvert la route et un camion m'en a éclaboussé de la tête aux pieds. Peu après, le soleil s'est montré quelques secondes pour ensuite faire place à la pluie et à la bourrasque. Je me traînais d'abri en abri. À Savières, dans l'école du village, je me suis demandé si je n'allais pas gagner Paris en voiture, mais cela avait-il un sens? À quoi bon être venu de si loin à pied pour finir en voiture? Plutôt aller jusqu'au bout de l'insensé, si toutefois c'était insensé. Saint-Mesmin, Légret, fuyant devant le puissant mur qui se rapprochait à une vitesse vertigineuse, je n'ai pas réussi à atteindre Légret. Je suis entré dans la buanderie d'une maison habitée sans que personne s'en aperçoive. Pendant 5 minutes, dehors, ce fut l'enfer. Les oiseaux luttaient contre les gros grêlons qu'ils prenaient en plein fouet. En quelques minutes à peine, la chose m'avait balayé, laissant derrière elle un manteau blanc. Immédiatement après, perçait un soleil inconstant, palpitant et meurtri. Mais déjà, épais et noir et menaçant, approchait le mur suivant. Arrivé au grès, ébranlé de la tête aux pieds, je commandais un café au lait. Deux motards, vêtus de combinaisons de caoutchouc qui leur donnaient des allures de plongeurs sous-marins, ont également cherché refuge. Marcher ne marche plus. J'ai eu un tel fou rire dans le blizzard que j'ai dû entrer défiguré dans le café. J'ai tout de suite eu peur de me faire arrêter par les policiers. Aussi me suis-je précipité dans les toilettes pour m'assurer d'un coup d'œil dans la glace que j'avais encore apparence humaine. Lentement, mes mains se réchauffent.
Merci Thomas. Qu'est-ce qui a conduit au choix de ce texte? Mon Dieu, qu'il souffre, cet homme.
Ouais, c'est terrible. Ce livre, il est fascinant. Il m'a été offert par un ami qui s'appelle Philippe Bouvier, d'ailleurs, qui est un des fondateurs des éditions du Clos Jouve. Parce que je suis un marcheur au sens propre, donc je ne connaissais pas ce petit livre sur la marche. C'est une belle histoire, hein, ce réalisateur, Werner Herzog, qui est très connu pour son cinéma... Et ses documentaires.
Et ses documentaires, oui.
Et moins connu comme marcheur, mais c'est un marcheur fondamental. Et donc ce livre, c'est le récit d'une marche qu'il a entrepris en apprenant que l'une de ses amies était malade et était sur le point de mourir. Et donc, j'ai oublié son point de départ, il était en Allemagne, et il s'est dit, je vais la rejoindre à Paris, là où elle est, à l'hôpital, pour la retrouver avant...
À pied.
Voilà, mais... apparemment ça ne l'a même pas percuté que peut-être il allait arriver trop tard en y allant à pied.
Bien sûr.
Mais donc il a fait tout ce trajet à pied.
D'accord.
Et elle a guéri.
C'est une belle histoire.
C'est
alors.
C'est une très très belle histoire. Et moi ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est qu'il y a vraiment la transcription de ce phénomène très particulier quand on marche qui remodèle toute la pensée. Pas en dire plus et autrement. Voilà, c'est vraiment une pensée de marcheur. Qu'il y a dans ce texte.
Sur le chemin des glaces, Werner Herzog. Ça a été réédité, hein, puisque
oui,
en fait,
hein, oui,
ce texte a été écrit.
Il n'était pas connu de moi, c'est tout.
Oui, tout à fait. Ouais. À la petite biblio Payot voyageur. Ouais. Merci beaucoup, Thomas.
Merci, Gaëlle.
Eh bien, place à nos Gédéons maintenant. Gaëlle, avec quoi es-tu venue ?
Mon Gédéon de la semaine est le livre « Les yeux de Mona » de Thomas Schlesser aux éditions Albin Michel. Thomas Schlesser, historien de l'art, professeur d'histoire des arts à l'École Polytechnique et directeur de la fondation Hartung Bergmann à Antibes, est également connu dans notre région pour avoir été le commissaire de l'exposition « L'univers sans l'homme » programmée l'année dernière au musée de Valence. Également écrivain, Thomas Schlesser signe avec Les yeux de Mona, une véritable initiation à l'histoire de l'art. Mona est une petite fille de 10 ans qui risque de perdre la vue. Son grand-père, Henri, soucieux que sa petite fille puisse engranger les beautés du monde, l'amène alors dans 3 musées, le Louvre, le musée d'Orsay et le centre Pompidou, pendant 52 semaines. 52 pour la rencontre d'une œuvre par semaine, le mercredi. Ces 52 œuvres sont reproduites sur la jaquette dépliante du roman. Les yeux de Mona est une école du regard qui a le mérite d'articuler un regard érudit, celui du grand-père, avec la spontanéité et la fraîcheur du regard d'une enfant de 10 ans. Le choix du grand-père Henri est vaste et éclectique. Michel-Ange, Botticelli, Raphaël, Turner, Courbet, Julia Margaret Cameron, Pollock, Malevitch, Mondrian, Basquiat, Brancusi, Soulage, mais aussi Goya, qui était sourd, ou Frida Kahlo, paralysée. L'art est définitivement cathartique. Je rappelle les références, Les yeux de Mona de Thomas Schlesser aux éditions Albin Michel.
Merci beaucoup Gaëlle. Guillaume, quel est ton Gédéon cette semaine ?
Alors mon Gédéon cette semaine, c'est un disque qui va sortir le 15 mars 2024 d'un artiste qu'on avait eu à ce micro, Danilo, qui est donc lyonnais, avec ce premier EP qui s'appelle LMQR. Alors Danilo, comment décrire Danilo ? C'est un petit peu si... un croisement entre Roland McDan et Guy Marchand. Je suis pas sûr que ça lui plaise. Mais en tout cas, il y a un côté crooner, loser, qui est très intéressant. En tout cas, moi, j'adore ses chansons parce qu'évidemment, c'est très, très ironique et finalement assez drôle. Voilà. Et donc, cet EP va sortir le 15 mars. Il y a 5 titres et je vous propose peut-être d'écouter un des titres et notamment le single, comme on dit, qui devrait cartonner sur les ondes, qui s'intitule Bienvenue avec un E en enfer.
On n'est pas si mal en enfer. D'en bas j'ai même vu la mer. En bas. Je me suis fait un paquet d'amis peu fréquentables. Un flic pourri, un publicitaire notable. Spectateur du fin fond des limbes. L'attance des gobelins qui chassent les menteurs, les pervers. Plus t'es salaud, plus tu prends cher. Plus tu prends cher. Ouais. Mais je me sens bien venu en enfer. Mais je me sens bien venu en enfer. Mais je me sens bien venu en enfer. Mais je me sens bien. Bienvenue en enfer. Ouais. Du grand chaudron face aux démons jaillissent les flammes. Belle lumière qui se reflète sur mes larmes. Quand je pense d'où je viens, non ne t'inquiète pas. Car ce sont des larmes de joie. C'est au milieu de ces gens que j'aime sans moi. C'est comme prévu, en droit chemin, je me suis perdu. Je ne regrette pas, y en a là-haut qui meurent de froid. Mais je me sens bien, venu en enfer. Mais je me sens bien, venu en enfer. Mais je me sens bien, venu en enfer. Mais je me sens bien, bienvenu en enfer.
Donc c'était Danilo avec Bienvenue en Enfer, extrait de son premier EP qui sort le 15 mars, LMQR. Et donc, on vous invite à aller, bien sûr, acheter cet EP et à aller peut-être l'écouter le 20 mars à La Marquise, puisqu'il sera en concert. Et je vous assure qu'on passe un très bon moment pailleté avec Danilo. Voilà.
Merci beaucoup, Guillaume. Pour ma part, à quelques jours de la Journée internationale du droit des femmes, il est bon de rappeler que les hommes ont le droit, voire le devoir, de partager le quotidien à la maison. J'ai décidé de vous parler d'une BD à offrir à tous ceux qui considèrent encore que la cuisine est le domaine réservé de leur sœur, leur copine, leur épouse ou encore de leur mère. Elle s'intitule « Au fourneau les blaireaux ». Au fourneau les blaireaux, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une bande dessinée qui cause de cuisine, réalisée par Olivier Jouvret et Morgane Velten. Tous deux, déjà auteurs et autrices de plusieurs numéros des rues de Lyon. C'est d'abord pour les manchots de la casserole, capables de ruiner la cuisine juste en faisant des crêpes. Ça propose des recettes, des conseils, des suggestions, des incitations, des interdictions, des blagues douteuses, plein de trucs. C'est un album de 108 pages, imprimé à Lyon. Dans cette BD, on vous explique tout, depuis le commencement, avec des dessins, des gros mots, des engueulades, de la mauvaise foi et beaucoup de gourmandise quand même. Des épisodes sont à consulter en ligne et la BD en version imprimée est éditée dans un cahier de 110 pages, souple, sans vernis pour pouvoir écrire dessus. Le transformer en livre perso avec des petites astuces et trucs de vrais blaireaux cuisiniers. Édité par l'épicerie séquentielle, il y a un site dédié où vous pouvez le commander au fourneau les blaireaux. Comme. Allez, faites un petit geste pour vos maris, vos mecs et tous les feignassous de la cuisine. Allez, on vous embrasse et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.